Et oui, la nature, les fleurs, les plantes, les produits de la terre, ils n'ont pas de secret pour Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Alain.
Quel bonheur que de vous retrouver tous les deux ce matin.
Bien.
Ah bah oui, oui.
Alors, il paraît, il existe une multitude de haricots.
Ah bien, écoutez, le haricot vert le plus connu est le haricot blanc. Ils sont si appréciés en cuisine qu'ils se déclinent dans le potager en centaines de variétés. Alors, ces légumes sont si populaires qu'ils nous ont même offert des expressions amusantes comme « courir sur le haricot » ou encore « la fin des haricots ». Il existe aussi, Pierre, le haricot magique, une plante incroyable, née dans un conte anglais du XVIIIe siècle. Alors, je résume l'histoire en quelques mots. Jacques est un brave garçon qui échange une vache qu'il devait vendre au marché contre un haricot magique. Lorsque le gamin rentre à la ferme, sa mère, folle de rage car elle espérait quelques sous, on la comprend, jette dans la cour le fameux haricot. Le lendemain matin, celui-ci a germé et il est devenu si grand qu'il touche les nuages. Jacques prend alors une échelle, grimpe jusqu'au ciel et rencontre un ogre fortuné. La suite, vous la connaissez, il redescend sur terre couvert d'or et il peut alors donner à sa maman tout l'argent dont elle a besoin.
Oui, une belle histoire, mais le haricot magique n'existe pas là.
C'est vrai, mais si le haricot auquel je pense ne fera pas de vous un homme riche, il saura vous combler par sa beauté et son originalité. Je pense au Phasoelus coccineus, eh bien oui, c'est le nom botanique d'un haricot originaire d'Amérique centrale. Les premiers à l'avoir introduit en Europe sont les Espagnols, d'où son nom commun, souvenez-vous-en, du haricot d'Espagne.
Et à quoi ressemble-t-il ?
La plante est vivace, mais se cultive le plus souvent en annuel sous nos climats. Elle produit des tiges volubiles qui peuvent atteindre les 4 mètres de longueur. Elle est parfaite pour décorer les tonnelles, les pergolas et les clôtures. Les feuilles sont caduques, légèrement pointues et très esthétiques. Ses fleurs, elles, sont le plus souvent rouges, oranges ou blanches et sont présentes en grappes tout au long de l'été. Le haricot d'Espagne est très décoratif.
Alors, ces graines sont-elles comestibles ?
Eh bien oui, en plus elles sont très bonnes. Elles sont si goûteuses que cette plante est même davantage cultivée dans les potagers en Angleterre que dans les parcs des jardins. Donc souvenez-vous, le haricot d'Espagne, c'est peut-être pas le haricot magique, mais on s'en rapproche.
Alain Baraton, les questions pour vous, questions d'auditeurs. Patricia,
un petit conseil, vous savez ce qu'il faut faire pour que le haricot garde sa belle couleur, sa jolie couleur lorsqu'il est cuit ?
Ah non.
Ah, je vous sèche. Vous mettez un tout petit peu de bicarbonate dans l'eau.
Ah tiens.
Voilà.
Elle connaît bien l'art de la cuisine, Patricia.
Je crois que la cuisine et le jardin sont deux activités qui permettent justement d'échanger et de transmettre.
Voyez, c'est ce qui fait. On a encore des choses à se raconter après 20 ans de.
Nous sommes un vieux couple.
Alors les questions. Julie, j'ai 3 oliviers en pot sur une terrasse à Paris. Assez rapidement, ils ont même donné des petites olives, mais depuis 2 ans, je n'en ai plus. Certains disent qu'il faut les tailler en automne, d'autres en février-mars. Quel est votre avis, Alain Baraton, sur ce sujet, les oliviers en pot sur une terrasse à Paris ?
Eh bien, c'est moi qui vais vous demander votre avis, Pierre, si vous le permettez, non pas sur la culture de l'olivier, car je sais que vous connaissez parfaitement bien cet arbre, mais est-il vraiment indispensable d'avoir en pot sur à Paris, non pas des oliviers, mais des olives dans l'olivier ? Je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable. On ne taillera l'olivier en pot à Paris que pour des raisons d'esthétique, je parle du végétal, que s'il avait une branche disgracieuse ou souffrante, mais on ne touche pas à la plante. Rassurez-vous, on n'est pas encore prêt pour faire de l'huile d'olive à Paris depuis sa terrasse.
Daniel, j'ai déplanté un pivoinier il y a 2 ans et demi et il n'a pas encore fleuri. Aurais-je des pivoines cette 3e année ?
Oui, alors j'ai pas changé la question, pivoinier. C'est un terme qui n'existe pas, mais j'ai trouvé ça joli. Une pivoine arbustive. Ah oui. Et c'est une plante magnifique, considérée par beaucoup comme la plus belle fleur du monde. Il est vrai que la pivoine arbustive est un peu capricieuse. Et quand on n'est pas capable de la déplacer à la bonne époque c'est le printemps, quand on n'est pas capable de la mettre dans une terre qui lui convient, à savoir un sol riche et qui ne retient pas l'eau, eh bien la plante peut se montrer un peu capricieuse et mettre plusieurs années avant de refleurir. Sachez que la pivoine arbustive en bonne condition est capable de vivre 50, 60, presque un siècle, c'est considérable. Mais quand on la déplace, il faut savoir qu'on risque fort de se passer pour quelques années de sa très belle floraison.
Ce courriel pour vous, Alain Baraton, Nathalie. Il y a dans le jardin de ma fille une haie de bambou pour isoler du regard d'une résidence. Et je me suis aperçu que le jardin était parsemé de pousses de bambou. Quel conseil lui donner pour gérer ses pousses ?
Déjà, elle est heureuse, elle tient la vie par le bambou. Non, plus sérieusement, Les bambous, ce sont des
plantes. Là,
ah ben je le fais à chaque fois. Ça, ce sont des plantes problématiques, on le sait bien. Mais d'un autre côté, si les bambous cachent d'une vue disgracieuse ou gênante, autant les laisser. Quand on a une pousse intempestive de la part de bambous, on prend la bêche et régulièrement on tape dedans. Le feu est une méthode efficace pour s'en débarrasser. On va pas mettre le feu dans un jardin, d'autant plus que c'est interdit. Donc, avant de planter les bambous, on choisit une variété qui est calme. Après, des coups de bêche.
Un conseil de lecture à la marathon.
Oui, Mon tour de la France de Franck Ferrand, c'est un ouvrage qui sort pile poil pour découvrir des endroits, mais pas forcément habituels. Ce sont les endroits un peu à l'écart de tout ce que l'on connaît. C'est 100 lieux merveilleux choisis par Franck Ferrand. On connaît l'homme, on connaît l'historien. C'est bien écrit. Il nous permet de parler de lieux que j'aime beaucoup. On parle du parc de Molévrier, par exemple, ou bien sûr du fameux palais du facteur cheval. C'est publié chez Flammarion et c'est une très belle promenade. Donc mon tour de la France, Franck Ferrand, Flammarion.
La main verte, Alain Baraton. Alain, on vous retrouvera la semaine prochaine avec l'ami Éric Delvaux.
Avec vers une joie.
8h moins le quart.
Mais pas vers à 8h moins le quart.
Voilà. Le samedi et le dimanche.